ぽかぴぽかぴ。ぽかぴ。
Merci Pinard, bonsoir. C'est l'heure de dialogue congolais, comme vous l'avez dit, deux sujets au centre du débat dans cette émission. Premier thème, clôture ce jeudi à la Cour pénale internationale des audiences de confirmation des charges dans l'affaire Jean-Pierre Bemba, des séances débutées depuis lundi dernier. Après ces audiences, le leader du MSP peut-il échapper au procès et être libéré? Troisième round des discussions à Nairobi, ce sera le second sujet. Le gouvernement et le CNDP se séparent sans avoir signé l'accord de cessez-le-feu. Trois invités pour le débat, Maître Séraphin Tchikala, avocat au barreau de Kinshasa et analyste juridique, et notre avocat, Joseph Lumia, avocat au barreau du Nord Kivu, président de l'ONG dénommée Promotion de démocratie et protection des droits de l'homme, CDH, membre de la société civile du Nord Kivu. Et un troisième, donc on a trois avocats, Achille Kabongo, président de l'ONG Transparence, Ligue africaine contre la corruption, les commissions secrètes et les blanchiments de l'argent sale. Bienvenue au pénal international des audiences et confirmation des charges dans l'affaire Jean-Pierre Bemba. Je vous l'ai dit, elles ont débuté lundi dernier. Après ces audiences, le leader du MSC peut-il échapper au procès et être libéré? En ce dernier jour de ces audiences, la grande partie de la séance a été consacrée à l'audition des avocats de l'accusé Jean-Pierre Bemba. La défense du leader du MLC dit avoir donné à la Cour pénale internationale des réponses précises sur la responsabilité personnelle du sénateur congolais lors des événements survenus en République centrafricaine. Il a été question de préciser si Jean-Pierre Bemba avait agi dans le cadre d'une entreprise criminelle. Explication avec l'un des avocats, Maître Aimé Kilolo, joint par Jean-Désiré Kanyama-Cité, peu avant d'enfermer le huis clos avec le procureur de la CPI.
Nous avons d'abord démontré qu'il n'y avait pas de participation criminelle à charge de M. Jean-Pierre Bemba dans le dossier, tout simplement parce que la jurisprudence de la Cour pénale internationale dit qu'il faut une participation avec des actes essentiels posés. Selon l'article 25 du statut de Rome sur lequel le bureau du procureur se base, la complicité ne peut pas être retenue, responsabilité soit engagée, il faut que ce soit plus qu'une simple complicité. Et là, nous avons démontré que l'envoi des troupes en Centrafrique ne peut pas constituer un plan criminel parce que ça s'est fait dans un cadre légal en tenant compte de l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui prévoit le droit à l'autodéfense lorsqu'un État souverain est menacé par une rébellion interne, mais aussi sur la base des accords de la CENSAD, accords régionaux africains qui prévoient l'assistance mutuelle entre États.
Du côté de la CPI, son porte-parole en RDC a précisé devant la presse jeudi la suite qui attend cette affaire. Les juges disposent de 60 jours à confirmer Paul Madidi pour déterminer si les éléments de preuve fournis sont suffisants pour ouvrir la voie à un procès. On écoute Paul Madidi, porte-parole de la CPI en RDC, sur les propos recueillis par Arsène Gonchon.
La balle est dans le camp des juges, en fait. Ils ont 60 jours. C'est le délai légal qu'ils ont pour prendre une décision. Il n'y a pas autre chose qui se fait en fait. Pendant ce temps, est-ce que le procureur peut apporter de nouvelles charges? Non, en principe non, mais le procureur a plutôt le droit, juste après, il peut faire recours. Non seulement il fait recours, mais il peut apporter de nouvelles charges. Les juges peuvent se prononcer avant les 60 jours, la fin de ce délai de 60 jours. C'est dans les 60 jours après la fin de l'audience de confirmation des charges qu'ils doivent répondre, pas après. C'est-à-dire que ça peut être 30 jours après, ça peut être 59 jours après, voilà.
Voilà, on ne refait pas le procès de la CPI. À la CPI, c'est même pas encore un procès, c'est une affaire encore en séance préliminaire. Mais on a trois experts en droit, trois juristes pour en parler. On commence par vous, Maître Séraphin Tchikala, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Ouais, votre première analyse de cette affaire, Jean-Pierre Bemba, à ce niveau où se termine aujourd'hui ces audiences de confirmation de charge.
Ok, bon. À ce niveau, je crois que vous-même vous avez bien rectifié dans votre propos tout à l'heure. À ce niveau, il n'y a pas encore de procès Jean-Pierre Bemba. L'instruction continue et jusqu'à preuve du contraire, M. Jean-Pierre Bemba est encore présumé innocent de toutes les charges qui ont été prononcées contre lui, qui ont été énumérées contre lui par le procureur de la CPI. Et vous devez aussi noter que le plus grand problème ou la plus grande faiblesse des charges prononcées à son endroit par le procureur de la CPI réside essentiellement sur l'imputabilité de M. Jean-Pierre Bemba par rapport à ces charges.
Comment ça?
Bon, jusqu'à ce niveau, les seuls éléments de preuve dont dispose le procureur de la CPI, les éléments les plus essentiels, si je veux bien dire, ce sont les témoignages de certaines personnes qui auraient été membres du MLC ou qui auraient fait partie des forces, donc de la branche armée du MLC à l'époque, et qui pour la plupart d'ailleurs, selon les commentaires de la défense, ont fait défection. Donc c'est le problème de l'imputabilité. Il faut que la Cour puisse apporter toutes les preuves nécessaires en vue d'établir l'imputabilité de ces charges à la personne de Jean-Pierre Bemba.
Donc, question d'imputabilité, voilà, donc il faut que la Cour arrive à prouver les charges contre Jean-Pierre Bemba. Mais là, Maître Achille Kabongo, bonsoir.
Bonsoir.
Il y a là, je vais citer le procureur adjoint de la CPI, Fatou Bensouda, qui dit que les preuves à charge sont suffisantes pour justifier un procès. D'abord, Jean-Pierre Bemba comme commandant en chef de Yure et de facto du MLC. Vous allez évidemment essayer d'expliciter tout cela. Pour elle, donc, Jean-Pierre Bemba savait que des crimes étaient commis et il n'a rien fait pour les arrêter. Maître Achille Kabongo.
Ouais, rapidement, j'aimerais d'abord apporter un petit rectificatif à ce que Paul Nadi venait de dire. Je dis ceci. Lorsque la chambre préliminaire ne confirme pas une charge, il n'est pas interdit au procureur de demander ultérieurement la confirmation de cette charge s'il était sa demande d'éléments de preuve supplémentaires. Ensuite, après confirmation des charges et avant que le procès ne commence, le procureur peut modifier les charges avec l'autorisation de la chambre préliminaire et après que l'accusé en ait été avisé. Si le procureur entend ajouter des charges supplémentaires ou substituer aux charges des charges plus graves, une audience doit se tenir conformément à l'article 61 du statut de Rome de la Cour pénale internationale pour confirmer ces charges nouvelles.
Qu'est-ce que vous voulez dire juste par cette
Alors, je veux dire ceci que mon confrère qui m'a précédé a dit que le procès proprement dit n'a pas encore commencé.
C'est
la raison. Nous sommes à l'audience de confirmation des charges. Et même après cette audience, il peut y avoir soit retrait de certaines charges, si la chambre préliminaire estime qu'il n'y a pas assez d'éléments de preuve, il peut y avoir aggravation aussi des charges. C'est-à-dire, tout reste possible, en quelque sorte. Il s'agit ici de voir comment la défense de Jean-Pierre Bemba a pu réfuter ces charges-là. Alors, allons un peu du côté de l'accusation. L'accusation a démontré qu'il existait un plan commun entre Jean-Pierre Bemba et M. Ange-Félix Patassé et une intention commune de commettre des crimes contre la population centrafricaine. Mais le problème qui se pose devant la Cour, le commandement des troupes, était-il réellement entre les mains de Jean-Pierre Bemba ou de M. Ange-Félix Patassé? Circonstance aggravante, le procureur a dit dans son accusation que M. Jean-Pierre Bemba disposait d'un contrôle total, entendez-moi bien Jean-Claude Kamanga, un contrôle total sur ses troupes en Centrafrique. Il communiquait quotidiennement avec ses officiers sur le terrain et leur donnait même des instructions. Facteur aggravant. Vous comprenez? Il dit que M. Jean-Pierre Bemba était au courant qu'il y avait des viols, des meurtres et des pillages qui étaient commis par ces soldats. Et qu'il n'a rien fait pour cela. Mais là où le bas blesse maintenant, c'est lorsque la tactique de la défense a été déployée avec notre éminent confrère Kwame Lilis, qui a été de fragiliser les témoignages présentés par l'accusation en débusquant les dépositions des témoins, dans les dépositions des témoins de propos contradictoires, au mieux des déclarations pouvant servir leurs clients. Et ici, je m'appesantis sur cette contradiction du témoin numéro 31 qui a affirmé, le témoin d'accusation a affirmé devant la Cour pénale internationale que les troupes de M. Jean-Pierre Bemba étaient placées sous la responsabilité du ministre des Défenses centrafricain, qui lui-même recevait ses instructions directement du président Ange-Félix Patassé. Alors, quelle est cette contradiction entre l'accusation du procureur et celle d'un témoin? Alors, nous avons révélé cette contradiction-là. Alors, c'est là que le problème se pose. Jean-Pierre Bemba peut-il être tenu responsable des crimes contre l'humanité, des viols, des crimes de guerre qui ont été commis en Centrafrique, à partir du moment qu'un témoin, numéro 31, affirme que les troupes étaient sous le commandement du ministre de la Défense centrafricain qui recevait directement des ordres du président Félix Patassé. Allez-y réfléchir, Jean-Claude Toumbagama.
Voilà, nous allons avoir le point de vue de Joseph Dunira. Bonsoir, monsieur Joseph.
Bonsoir, monsieur Jean-Claude.
Alors, votre point de vue aussi, tant que juriste aussi, bien sûr.
Oui, voilà, la question de savoir si, à ce stade, monsieur Jean-Pierre Bemba peut être libéré ou...
Oui, est-ce que vous pensez qu'il y a plus de chances qu'il y ait finalement un procès, parce que c'est cela qui est attendu maintenant que les audiences de confirmation des charges sont finies?
Oui, tout dépend de la façon que la défense va orienter ce moyen, parce que, comme vous le savez, jusqu'à présent, Jean-Pierre Bemba jouit de la présomption d'innocence, et que l'accusation, si elle n'est pas balayée, si elle n'est pas détruite par la défense, ça signifie que Jean-Pierre Bemba pourra être présenté devant les juges. Mais comme vous le savez, la Cour pénale internationale est à une opposition permanente, une opposition du Conseil de sécurité, ne peut pas se compter seulement à présenter une personne devant le procureur de la CPI sans qu'il y ait des éléments sérieux, sans qu'il y ait des indices sérieux sur les crimes commis par lui. Mais à la différence de ce que disent les autres, il faut savoir que une innovation de la justice internationale, de la Cour pénale internationale, c'est qu'on peut être responsable du fait de... On peut être responsable du fait qu'on est commandant, du fait qu'on est donneur des ordres. De ce fait, il reviendra au procureur d'établir que M. Jean-Pierre Bemba avait des ordres sur les troupes, ou qu'il avait le commandement ou une autorité quelconque, et que de ce fait, il n'avait pas le pouvoir d'empêcher ou d'intervenir à ce que les crimes soient commis. Mais on retient qu'ils avaient un objectif commun, ils avaient une intention commune avec les présidents centrafricains, afin de pouvoir étouffer toutes les opinions qui étaient opposées, qui étaient favorables à la rébellion de François Bozizé, et que donc, de ce fait, ils devaient exécuter un plan commun visant à anéantir, visant à réprimer toutes les populations qui étaient acquises à l'opposition centrafricaine.
Alors, je reviens vers vous, Maître Séraphin Tchikala. Lorsqu'on suit les déclarations des avocats de Jean-Pierre Bemba, ils ont évidemment exclu toute responsabilité de l'ancien vice-président congolais dans les crimes commis, selon l'accusation par des éléments du MLC. La défense de Jean-Pierre Bemba réclame par ce fait un non-lieu, ce, après avoir mis en cause l'ancien président centrafricain, Ange-Félix Patassé, qui avait sollicité l'appui du MLC en 2002 et 2003 pour contrer un coup d'État. Mais lorsqu'on suit ce que déclare encore Aimé Kilolo Moussamba, l'un des avocats de Jean-Pierre Bemba, il y a aussi la Libye qui est mise en cause pour avoir fourni l'armement et les munitions. Finalement, est-ce qu'il n'y aura pas beaucoup de rebondissements dans cette affaire?
Bon, il y aura effectivement beaucoup de rebondissements, mais relativement à la responsabilité éventuelle de M. Jean-Pierre Bemba, c'est là que se pose tout le questionnement de cette affaire. Donc, si vous prenez, j'ai suivi l'un de mes confrères qui m'a précédé, qui parle de la chaîne de commandement qui aurait existé entre M. Jean-Pierre Bemba, qui se trouvait en territoire congolais, et ces troupes qui étaient déployées de l'autre côté de la rive de la rivière Ubangi. Donc, si nous voulons nous référer même un peu au droit international, au principe du droit international, au principe de la souveraineté des États, la RCA, la République centrafricaine, même sous le président Ange-Félix Patassé, c'était un État, donc c'est un État souverain qui peut demander l'assistance sécuritaire, l'assistance militaire à quiconque, à tout État tiers, lorsqu'il se sent agressé ou lorsqu'il est en proie à une insurrection interne armée.
Mais le MSC n'était pas un État, là, c'était... je dirais une sorte de milice quand même.
Effectivement, le MLC n'était pas un État, mais le MLC constituait une force armée qui pouvait renverser la tendance qui se faisait jour déjà en Centrafrique, sur l'échiquier politique. Donc, la République centrafricaine a souverainement demandé l'assistance d'un mouvement rebelle. Le mouvement rebelle était de l'autre côté, mais ce n'était pas un mouvement rebelle aux yeux des Centrafricains. Donc, le président centrafricain a demandé l'assistance d'une force armée étrangère et d'office, cette force armée étrangère devenait sous les injonctions souveraines de la République centrafricaine.
Oui. Parce que nous devons conclure, en fait, c'est le premier sujet de ce dialogue entre Congolais, avant de prendre quelques réactions des auditeurs sur ce sujet. Mais pour vous, en quelques secondes, Maître Séraphin Tshikala, vous pensez que Jean-Pierre Bemba peut s'en sortir?
Oui, Jean-Pierre Bemba peut s'en sortir. D'ailleurs, je demanderai même à mes confrères de relever déjà cet incident de procédure, hein, que la défense de M. Jean-Pierre Bemba a constaté. Quand est-ce que tous ces témoins ont fait leur déposition, hein? Et puis, ils ne sont pas connus de la défense. Ils sont codés par des nombres, 31, 40, 45, tout ça. Donc, il y a déjà un incident de procédure. Donc, la défense de M. Jean-Pierre Bemba peut opposer une exception de non-communication des pièces.
Merci. Merci, merci. On va donner la parole aussi à... On va terminer par vous, Maître Achille Kabongo. D'abord avec Joseph Demia, vous êtes avocat au barreau du Nord Kivu. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux chances de Jean-Pierre Bemba? Mais peut-être très rapidement, en évoquant l'incident dont vient de parler Maître Séraphin Tshikala, je ne sais pas si vous partagez son point de vue.
Je ne partage pas le point de vue du professeur Tshikala dans la mesure où, si et seulement si Ange-Félix Patassé déclare avoir donné des ordres au commandement de Jean-Pierre Bemba, au ministère de Jean-Pierre Bemba, c'est dans ce cas où Jean-Pierre Bemba peut être sauvé. Mais dans la mesure où le président centrafricain, qui exerce l'autorité sur l'État centrafricain, déclare que le commandement appartient à Jean-Pierre Bemba, dans ce cas, alors Jean-Pierre Bemba sera poursuivi, donc il pourra être jugé. Mais au cas où il est établi qu'il n'avait pas des ordres, qu'il n'avait pas de commandement sur ses troupes, s'il est établi, si ses avocats peuvent détruire les arguments du procureur, alors dans ce cas, il ne pourra pas être présenté devant les juges. Mais si et seulement si, le président centrafricain, d'ailleurs, à ce moment-là, donc, Ange Patassé, s'il déclare que celui qui avait le commandement des troupes de Jean-Pierre Bemba, à ce moment-là, Jean-Pierre Bemba peut être sauvé.
Voilà. On va avoir de terminer avec Achille, Maître Achille Kabongo, sur ce premier sujet, les réactions des auditeurs. Ça tombe déjà. Kassamba Owanango nous écrit de Bounia, province orientale. L'infraction est individuelle, même la Bible le reconnaît. Pourquoi Jean-Pierre Bemba doit-il être condamné pour les faits dont il n'est pas l'auteur direct? Malemba Isaac de Lumbasso, Katanga, pense que le procès de la CPI, c'est la politique, donc ce procès devrait commencer par arrêter Patassé, Ange-Félix Patassé, et son général qui commandait à ce moment-là les troupes. Jean-Dominique de Kananga au Kassai Occidental estime que quand la main a failli, on punit la tête, Jean-Pierre Bemba étant le chef, il doit subir la rigueur de la loi, d'où Alex, c'est de l'institut. Maître Achille Kabongo.
Je commencerai par rectifier quelque chose que le confrère Séraphin Tshikala a dit en ce qui concerne l'anonymat des témoins. La Cour pénale internationale, dans le statut de Rome, il est prévu que tous les témoins doivent déposer sous anonymat. Les noms des témoins ne peuvent en aucun cas être...
Donc c'est normal.
C'est normal, c'est ce qui est prévu par la Cour pénale internationale. Et ici, j'ajoute qu'il a failli y avoir un incident. Nous qui suivions les procès sur les chaînes câblées, il a failli y avoir un incident lorsqu'un avocat de la défense de Jean-Pierre Bemba a révélé le nom d'un des témoins à charge de Jean-Pierre Bemba, qui n'était autre qu'un grand homme politique
congolais.
Congolais qui se trouve ici à Kinshasa. Mmh. Ça a été le branle-bas au cours de l'audience. Il ne faut jamais révéler les noms des témoins et il ne faut jamais les citer. Les témoins déposent sous anonymat et ils ne doivent pas être connus. Ça, c'est une première chose qu'on doit rectifier. Mmh. Une deuxième chose, j'aimerais ajouter Jean-Claude Kamanga que je vais donner encore un deuxième exemple qui relève les contradictions entre la déposition du procureur.
Allez-y très rapidement.
Très rapidement.
Oui.
Le procureur a affirmé que Jean-Pierre Bemba avait un contrôle total sur ses troupes en Centrafrique. Il communiquait quotidiennement avec ses officiers sur le terrain et leur donnait même des ordres. Je vous ai parlé de la tactique de défense utilisée par les avocats de Jean-Pierre Bemba, oui, qui était de fragiliser les témoignages et de relever les contradictions au sein de ces témoignages. Il y a encore une autre contradiction au sein du témoin. Numéro 45, par exemple, je vous ai parlé du témoin numéro 31, il y a le témoin numéro 45. Écoutez, Bemba, selon l'accusation, était au courant des viols et des crimes commis de façon généralisée par ses hommes. La déposition du témoin numéro 45, censé, affirme les avocats de Mbemba, indique que Mbemba était informé de la situation militaire, mais ne précise pas s'il savait que des exactions à grande échelle étaient commises par ses troupes. Ça, c'est le témoin à charge des Jean-Pierre numéro 35. Le témoin a dit ceci, que Mbemba était informé de la situation militaire sur terrain. Et ce témoin-là a affirmé qu'il ne sait pas lui préciser que si Jean-Pierre Bemba savait effectivement que des exactions à grande échelle étaient commises sur terrain. Alors, comment condamner Jean-Pierre Bemba sur base de crimes contre l'humanité, sur base de crimes de guerre, de viol et autres pillages à partir du moment?
Oui.
C'est là que c'est grave. Il y a déjà deux témoins, il y a des contradictions entre l'accusation du procureur, selon les enquêtes menées par le bureau du procureur,
oui,
et les témoins de charge.
Oui. En résumé, maître Assis, finalement, Jean-Pierre Bemba, quelle chance pour lui donner pour la suite dans cette affaire?
Écoutez, je n'aime pas jouer au débat. En tant qu'avocat d'expérience, je vais vous dire que nous disons que vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Un procès reste un procès. Tout peut arriver. Vous savez que nous, les avocats, on peut vous faire croire que le ciel, c'est l'enfer et que l'enfer est le ciel. De même, les magistrats le peuvent et le jugent. Donc, tout peut arriver, je ne peux pas jouer au-delà. Il y en a qui ont dit qu'ils ont des considérations politiques là-dedans. Mais, tout simplement, est que si la Cour faisait jouer les considérations politiques et chargeait Jean-Pierre Bemba, et au cours de la première instance, et qu'on remarque qu'il n'y a pas suffisamment de preuves, il peut y avoir des très mauvais rebondissements sur le plan international, et même sur le plan national en République démocratique du Congo. Et ça risque d'être grave.
Merci beaucoup, Maître Haché. Tout ce que vous avez parlé, plus que tous les autres, je vais donner la parole à Joseph Dumia, d'essayer de répondre quand même aux auditeurs qui nous écrivent. Maître Joseph Dumia, est-ce que vous pouvez répondre? J'ai déjà lu, si à moins que vous me demandiez de relire encore les réactions de ces auditeurs. Je prends comme ça Malimba, Isaac, qui dit que le procès dans ce pays est politique. Vous êtes de cet avis, Maître Joseph?
Non, je ne suis pas de cet avis parce que vous savez que l'impunité était une immoralité qui est censée d'amener le monde de manière fâcheuse et qu'il fallait arriver à un moment où tous les États devaient se mettre d'accord pour mettre fin à l'immoralité. Et d'abord, la question de savoir s'il y a la responsabilité personnelle de Jean-Pierre Bemba. Je pense que nous avons relevé qu'il y a une innovation de la justice internationale de pouvoir incriminer tous les donneurs des ordres, tous les commandants qui ont l'autorité sur les troupes. Et vous savez que la justice internationale ne devrait pas s'occuper de tous les petits poissons. Et c'est pour cela que la CPI se charge des grosses légumes comme Jean-Pierre Bemba. Et donc pour cela, il n'est pas vrai de pouvoir dire que c'est une justice politisée, parce que avec l'affaire de l'impunité, avec prise contre l'impunité, nous espérons que la paix et la sécurité pourraient être établies dans le monde.
Oui. Maître Sikala, pour répondre à Farouk Matofali, on va s'arrêter là pour ce premier sujet de cette émission, Dialogue entre Congolais. Farouk Matofali de Goma, au Nord Kivu, lui pense que Jean-Pierre Bemba ne peut pas échapper au procès, car ses troupes, quand elles sont parties à Bangui, personne d'autre ne les a envoyés à part Jean-Pierre Bemba. Nous croyons que la justice sera faite pour que nos politiciens sachent qu'un jour, même s'ils prennent le pouvoir par la force, devrait, la justice sera équitable et que cette injustice existe.
Ok, bon. La personne qui prétend que les troupes qui sont parties en Centrafrique et qu'elles demeuraient sous le commandement suprême de Jean-Pierre Bemba, je crois qu'elle ne comprend pas ce que veut dire la souveraineté des États. À moins qu'il se soit agi en ce moment-là d'une agression armée d'un État comme c'est le cas aujourd'hui, lorsque nous voyons ce qui s'est passé en Irak, ou bien ce qui se passe dans notre pays sous couvert du CNDP, avec des troupes étrangères qui viennent agresser notre pays. Hein? Mais lorsque c'est un État qui a souverainement invité une force armée étrangère sur son territoire, eh bien c'est cet État qui relève la responsabilité de tous les actes que pourrait commettre cette force étrangère. C'est cela. Donc, le problème qui demeure, c'est un problème de preuve, un problème de l'imputabilité de tous ces actes, de toutes ces charges à la personne de M. Jean-Pierre Bemba.
Voilà, il y a d'autres auditeurs, évidemment, c'est difficile, on ne saura pas lire tous leurs messages. Gilbert Yewena nous écrit depuis Loubert au Nord-Kivu. Il demande si, à l'issue du procès, le sénateur Jean-Pierre Bemba est acquitté, sera-t-il dédommagé pour tout le temps passé en prison et l'humiliation?
Oui, en principe, il devrait être dédommagé parce que c'est depuis le mois de mai qu'il est incarcéré et le préjudice qu'il a subi, c'est un préjudice certain, un préjudice certain, et que en vertu de la loi, même de la loi de notre pays, il devrait être dédommagé pour réparer ce préjudice-là.
Peut-être quelques secondes, Achille, vous voulez peut-être dire un petit mot?
Non, mais à proprement parler, je ne vois pas en quoi on doit le dédommager, moi.
Voilà.
Je ne vois pas, il a été poursuivi, suspecté de crime, il n'a pas eu confirmation, des charges, tout simplement parce qu'il n'a pas eu assez d'éléments suffisants. Nous nous disons ceci, lorsqu'il y a une infraction, il y a des éléments constitutifs. Je vous donne un exemple. Nous définissons dans notre code pénal congolais le vol comme étant une soustraction frauduleuse. Vous pouvez commettre un acte que le commun des mortels appelle le vol, mais quand nous les avocats, et le juge nous regardons, nous disons que vous n'avez pas commis ce que la loi pénale dit, soustraction frauduleuse. Il y a un élément constitutif qui manque, je vais vous dire que vous n'avez pas du tout volé. Alors là, qu'on ne dise pas que nous sommes des avocats du diable, si Jean-Pierre Bemba, on parvient à établir qu'il y a des éléments constitutifs de ce crime-là qui manque, il sera tout simplement relaxé.
Merci beaucoup. Juste le temps de lire, hein, on ne va pas y répondre malheureusement. C'est Michel Lukosi qui nous a écrit de Lubumbashi au Katanga. À entendre les juges de la CPI, n'ont pas d'argument palpable pour condamner Bemba, si ce n'est qu'une histoire politique. Robert Baume de Bukavu. Que Jean-Pierre Bemba soit ou non incriminé, je pense que l'essentiel est que la justice soit bien rendue, c'est-à-dire objectivement, loin de toute partialité, qu'on fasse tout de même confiance à la CPI. Troisième round de discussion à Nairobi, c'est le second sujet. Le gouvernement et le CNDP se sont aussi séparés ce jeudi sans l'accord de cessez-le-feu. Ne quittez pas, puisque nous en parlons juste après ce rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission au téléphone 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Le gouvernement et le CNDP se sont séparés ce jeudi à Nairobi sans l'accord de cessez-le-feu, selon un communiqué de la Facilitation africaine et onusienne mené par les anciens présidents Benjamin Mkapa de Tanzanie et Olusegun Obasanjo du Nigeria. Ces discussions ont réalisé des progrès, notamment la signature des termes de référence sur base desquels se poursuit le dialogue entre les deux parties. La médiation demande aux représentants de ces deux délégations de faire part à leur base des points convenus avant la prochaine étape de discussion, étape censée aborder les questions de fond. Mais pourquoi le cessez-le-feu n'a pas été signé? Pour le porte-parole de la délégation gouvernementale, l'abbé Malumalu donc dit que la signature de l'accord de cessez-le-feu n'est pas intervenue parce que les discussions sont en cours. Je ne sais pas dire quand interviendra cette signature, a encore dit le prélat catholique. Même son de cloche du côté CNDP, Bertrand Bissimois, c'est le porte-parole du CNDP, il le confirme au téléphone de quel écouté.
Il y a quelques points sur lesquels nous devons encore nous mettre d'accord. La médiation a estimé que nous devrions rentrer, consulter nos bases et revenir le 25 prochain pour repartir avec les points qui sont restés. Et nous pensons quelquefois que nous allons nous accorder sur ça et finalement signer cette déclaration de façon exhaustive.
Est-ce qu'on peut connaître ces points sur lesquels vous devez encore vous mettre d'accord?
Bien, oui. Il faut dire que jusqu'au stade actuel, ne sont pas autorisés d'en parler, étant donné que ce document est encore en chantier. À sa signature, nous pourrions vous en relever le contenu.
Garçon, laissez-moi, vous dites que la médiation vous a demandé de consulter vos bases sur les questions qui restent à traiter avant la signature de l'accord de cessez-le-feu. Mais est-ce que cette suspension n'est pas aussi due à la crise au sein du CNDP?
Malheureusement, je dois vous décevoir en vous disant que ce n'est pas du côté du CNDP qu'il faut trouver la cause qui a fait que ce document ne soit pas fini. Et cette question-là à laquelle vous faites allusion, elle n'a jamais été soulevée par qui que ce soit dans les négociations. Donc au stade actuel, le blocage ne vient pas du CNDP.
Voilà, vos commentaires avec vous, Joseph Denis.
Oui, comme vous savez, il y a des dissensions au CDSD dont tout le monde est dans l'opinion.
Vous avez parlé du CNDP.
Joseph Denis. Allô?
Oui, vous voulez parler du CNDP parce que vous avez parlé du RCD.
Oui, je voudrais parler du CNDP en disant qu'il y a des inquiétudes à ce fait si la dissension est confirmée entre Laurent Koundé et Jean Bosco Ntaganda, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas avec qui le gouvernement devrait signer. Et donc, si la signature n'est pas donnée aujourd'hui ou demain, Laurent Koundé peut perdre au cas où Jean Bosco Ntaganda a une effectivité de pouvoir du CNDP. Donc, je pense que le gouvernement a intérêt de pouvoir décrocher un accord, mais ce sera au détriment de l'aide qui n'a pas l'effectivité sur terre.
Donc, en vous entendant parler, vous pensez que cette scission au sein du CNDP peut toujours perturber les discussions à la journée?
Oui, la dissension peut perturber dans la mesure où, lorsque l'aide qui n'est pas à Nairobi concerne l'effectivité sur terrain, à ce moment-là, même si le gouvernement a signé avec l'aide Laurent Koundé, ça ne servira à rien, ça ne va pas empêcher la conciliation des utilités au Nord Kivu. Et donc, je pense que le gouvernement prend la précaution de ne pas se précipiter à signer tout en voulant savoir qui a l'effectivité s'il serait au Nord Kivu.
Bon, ça c'est vous qui le dites, parce que du côté de la médiation, Maître Séraphin Chikala, la médiation dit qu'elle donne le temps aux différentes parties de rentrer dans leur camp, discuter des questions de fond avec leur base avant de se retrouver le 25 janvier prochain pour essayer justement d'aborder ces questions de fond.
Ok, à ce sujet, il faut de remarquer que dans la complexité du problème relatif aux négociations entre le CNDP et le gouvernement, donc est dû aussi au fait surtout de la scission de ce groupe armé. Donc aujourd'hui, il y a deux ailes au sein du CNDP. Il y a l'inter-extrémiste qui continue d'être représenté par Laurent Koundé, Batoaré, et il y a l'aile modérée avec le dissident Jean Bosco, je crois, qui a accepté, donc qui s'est dit prêt à participer au programme gouvernemental de désarmement des miliciens FDLR et Interahamwe, ouais, qui sont disséminés dans l'est de notre pays et qui constituent l'une des raisons de l'insurrection armée menée par Laurent Koundé. Donc, vous trouvez déjà qu'à ce niveau, lorsque on se trouve devant, comment on peut dire, un exécutif bicéphale au sein de ce groupe armé,
il manque de
négociateurs, donc de partenaires crédibles avec qui négocier, avec quel aile le gouvernement congolais peut-il négocier. Et même s'il s'agissait de faire des compromis, il le fera, le gouvernement congolais fera des compromis avec quel aile, l'aile extrémiste de Koundé ou l'aile de Jean Bosco.
Voilà. Maître Achille, finalement, en renvoyant ces délégations dans leur base sans avoir signé le cessez-le-feu, parce que la médiation ne parle pas de blocage, hein. On a suivi même la même allemande que nous avons contactée, ils disent qu'il n'y a pas de blocage, les discussions sont en cours, mais est-ce que vous pensez que du côté de la médiation, c'est stratégique, cette option?
Ce n'est pas stratégique. Vous comprenez, c'est un manque d'initiative.
Comment?
je vais vous dire une chose en clair. Nous, analystes congolais, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas des imbéciles. Jean-Claude Kamata. Vous comprenez? Au sein du
CNDP,
les Congolais ne sont pas imbéciles.
Ça, on a dit.
Ouais, alors nous disons ceci. Au sein du CNDP, on tente de distraire Kinshasa. Tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer. Il y a une initiative soutenue par la résolution 1856 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui intègre le programme Amani et l'accord de Nairobi signé par la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous comprenez? Et qui devait consacrer le succès du round 3 de Nairobi dans les négociations. C'est ce que l'on appelle le troisième round de Nairobi 3.
Oui.
Mais il est étonnant de voir que c'est à la veille du round, du troisième round de Nairobi, qu'il y a une scission au sein du CNDP.
Ça peut être un fait de hasard.
Non, mais c'est un canular.
Comment?
Tout simplement pour distraire Kinshasa. Je vous donne un exemple.
Mais pour vous, c'est fait exprès.
C'est un canular. Nous ne sommes pas des dupes. Pour preuve, ce sont bel et bien les délégués de Kunda qui continuent à siéger à Nairobi avec le gouvernement de Kinshasa et la facilitation internationale. Ensuite, Olusegun Obasanjo qui s'est déplacé à Djomba.
Pour rencontrer Kunda.
Il a rencontré Kunda et non Bosco Tangada jusqu'à présent. C'est Kunda qui reste et qui tient les rênes. Vous comprenez? À qui profite réellement cette scission? Pourquoi cette scission à la veille du troisième round de Nairobi? Kinshasa est en présence d'un monstre bicéphale de CNDP.
Donc,
écoutez,
ouais.
Permettez-moi de terminer.
Oui, terminé,
Jean
oui.
Lange Lidère
ouais.
Est considéré par la Cour pénale internationale comme un bandit, un brigand, un criminel de grand chemin. Écoutez, oui. C'est Bosco Tangada
oui.
Qui est considéré comme un bandit, un criminel et qui est sous mandat d'arrêt international. Comment le gouvernement de Kinshasa va-t-il faire confiance à un tel homme dont l'arrestation, les jours sont comptés? Vous voyez un peu, c'est un canular, tout simplement. Ici, nous demandons au gouvernement de Kinshasa d'agir avec ingéniosité, d'être stratège.
Oui.
Et nous demandons aux ambassadeurs itinérants du chef de l'État qui se trouve à Nairobi
oui.
De bien négocier. Parce que maintenant, la tendance, c'est quoi? On veut nous amener en Somalie, c'est où encore? À Addis Abeba.
Oui. Mais,
écoutez, et ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, je viens de l'apprendre.
Oui.
Jean-Claude, permettez-moi.
Très rapidement,
va présenter son rapport à New York. Aujourd'hui au siège des Nations Unies, quel rapport va-t-il présenter? Parce qu'il n'y a pas eu de compromis. Et ça, c'est très grave.
On va nous
amener en Somalie, pourquoi? À partir du moment que le round de Nairobi était prévu, c'est ça le problème.
Oui, il y a eu quand même accord sur les termes de référence. Maître Joseph Douya, très rapidement, en une minute, pour qu'on prenne encore le lot des réactions qui nous arrivent. Donc, vous pensez, comme le dit Maître Achika Bongo, que la scission au sein du CNDP n'est pas un fait du hasard?
Affilié avec quelqu'un qui n'a pas l'effectivité sur le terrain. Parce que vous savez que si la médiation se presse affiliée avec l'une des deux ailes, il y a un risque qu'il faut recommencer encore les négociations avec l'aile qui a l'effectivité. Pour cela, moi, je ne suis pas d'accord avec mon estimé confrère qui vient d'intervenir, qui considère ça comme des canulars, parce que, comme vous le savez, il y a de nouvelles données qui nous sont ajoutées après le programme Amani. Et je crois qu'avec la modération des uns et des autres, il sera possible de revenir au programme Amani. Il permettra de revenir sur la réintégration, la démobilisation du groupe des armées, qui est la seule solution. Vous savez que le fait qu'il y ait plus des armées au sein des FRDC, au sein d'une seule armée, c'est ça le grand problème à la CD Congo. Mais si l'une des ailes accepte et confirme l'effectivité sur le terrain, je crois que le gouvernement congolais y tirera profit et même la médiation aura été stratégique.
Voilà. On va prendre la suite des réactions des auditeurs avec vous, Pierre et Lamégé. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Claude. Vianney de Bouna, dans la province orientale, pense que les troisième round de négociations de Nairobi n'éprouvent-ils pas à suffisance l'échec de ces négociations? Que peut encore proposer le gouvernement congolais pour finalement trouver un compromis et mettre fin à la guerre? Jean-Noël Moussassa à Boutembo, au nord Kivu, se demande combien de rencontres faut-il après tout pour signer cet accord de cessez-le-feu. Il continue en disant que le peuple ne croit plus en ces négociations. Un auditeur anonyme de Kinshasa estime que l'heure n'est plus aux négociations. Il faut utiliser la force si les négociations n'avancent pas. Et Jean-Félix Néti et Dissiro, parce que le CNDP dit que le gouvernement et la communauté internationale, que le gouvernement congolais prenne en main la défense de son territoire.
Voilà, en réaction,
de faire un seul cycle là, maître.
Ok. Moi, je voudrais réagir surtout sur le dernier aspect de la réaction de l'auditeur dont on vient de lire. Ok, ça va. Que le gouvernement congolais prenne la défense de son territoire, c'est un fait. Mais ce que nous constatons, nous ne savons pas s'il y a s'il y a un agenda caché dans le chef du gouvernement congolais, en maintenant et en protégeant carrément tous ces groupes armés, parmi lesquels des groupes armés rwandais, mais qui sont disséminés et établis ici chez nous, dans notre pays. Nous n'avons rien à voir avec ces interahamwe ou ces FDLR qui nous ont été exportés, amenés ici par les Français à l'occasion de l'opération turquoise de 1994. Donc, il faut absolument que le gouvernement congolais puisse trouver, avec les instances internationales, comme le Conseil de sécurité des Nations Unies par exemple, une résolution définitivement bonne fois pour toute cette question. Comme c'est le prétexte principal qui fait que le Rwanda, au nom de sa sécurité interne et externe, doit carrément établir une sorte de zone tampon entre son territoire et le nôtre, et se prémunir d'éventuelles attaques ou insurrections de ces groupes en créant un groupe armé qu'on appelle le CNDP. Donc, que nous puissions désarmer nous-mêmes ces troupes rwandaises ou que une force internationale puisse descendre ici sur le terrain et procéder au désarmement forcé, comme le gouvernement volontaire n'a pas réussi, au désarmement forcé de ces troupes-là. Parce que nous subissons, les méfaits. Les méfaits, donc, le génocide rwandais s'est exporté en RDC sous une nouvelle forme.
Merci, maître Séraphin Chicola. Maître Joseph Lumière, vous avez l'avantage d'intervenir de Goma, puisque vous êtes avocat au barreau du Nord Kivu. Le président de l'ONG dénommé Promotion de démocratie et protection des droits de l'homme, Vianney, qui nous écrit de Bounia dans la province orientale, lui pense que le troisième round des négociations de Nairobi, lui, il estime que c'est un échec. Est-ce qu'il faut parler d'échec à ce niveau, alors qu'il y a quand même eu accord au niveau des termes de référence et qu'il y a une prochaine étape qui est prévue pour aborder les questions de fond?
À mon avis, c'est une réussite. Et lorsque l'opinion ou bien l'auditeur pose la question de savoir si le gouvernement congolais peut prendre ses responsabilités, c'est de ne pas être réaliste et d'ignorer que l'armée congolaise était en chantier et que les États voisins avaient des comptes à régler dans notre territoire. Si la présence de les rebelles, notamment les FDLR, pour lesquels le Rwanda est entré en jeu, et les LRA pour lesquels le gouvernement ougandais est entré en jeu sur le territoire congolais. Et donc, le gouvernement congolais a agi avec retard, mais il n'y a pas d'autre voie comme l'armée était en chantier. L'armée n'est pas encore capable de faire face aux États voisins et à toutes les présences des grandes armées utilisées par les voisins. Je crois que c'était sage, c'était intéressant que le gouvernement congolais puisse négocier avec l'appui de la communauté internationale, avec les États voisins, parce que notre armée était en chantier. Nous ne sommes pas encore prêts. La preuve, c'est qu'on a vu comment les rebelles sont descendus tranquillement sur la partie Est. Parce que croire que le gouvernement congolais pouvait prendre la responsabilité, je crois que ce n'est pas être réaliste. Le réalisme est suggéré que le gouvernement congolais négocie. Mais malheureusement, le gouvernement congolais a négocié en retard. Et pourtant, il y avait possibilité, quand la révision a commencé, d'approcher ces gens, parce que notre armée n'était pas prête de pouvoir faire face aux rébellions qui sont appuyées par les États voisins.
Merci beaucoup, Joseph Dounia. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Nous disons merci, bien sûr, à Maître Achille Kabongo et à Séraphin Chicala, aussi un avocat. William Lungamba était à la mise en onde, Martin Sebujango à la coordination, Guy Maté, qui est écouté, Pierre Lamégi, William Akonda et Jean-Claude Mbakamanga. Nous vous disons merci de rester fidèle à la radio au Café.
Oh, happy, oh, happy.